Semaine spéciale, à voix nue, jour de défaite, perdre en politique, en partenariat avec France 3. La défaite électorale est une étape obligatoire du parcours de toute femme et homme politique. Cette semaine, cinq personnalités de premier plan, ex-ministres, députés ou chefs de parti, racontent pour la première fois ses échecs au Goamer, mais riche en enseignement. Ce soir, Cécile Amar rencontre Cécile Duflot.
Merci Cécile Duflot d'avoir accepté de répondre à nos questions.
De rien.
Vous avez longtemps été la patronne des écologistes. Vous avez été ministre du Logement et députée de Paris. En octobre 2016, vous avez perdu la primaire des écolos au premier tour. Et au fond, vous avez été la première victime de ce qu'on a appelé le dégagisme, qu'on a vu beaucoup à l'œuvre dans cette séquence électorale. Est-ce qu'on sent arriver une défaite ?
Pas toujours, mais celle-là, oui. Parce que je crois que je connaissais bien les militants écologistes. J'ai gagné plusieurs congrès et je savais ce qu'il fallait dire et ne pas dire. Et j'ai décidé de faire campagne, y compris pendant la primaire, sur une ligne de campagne qui n'était pas celle qui est la plus aisée pour gagner une primaire. Mais j'étais convaincue qu'être candidate à la présidentielle dans le cadre étriqué de « je suis uniquement la représentante d'un petit parti qui fait une candidature de témoignage », c'était une erreur de campagne. Donc, c'est une défaite à laquelle j'étais préparée. C'était à la fois la plus douloureuse et celle à laquelle j'étais la plus préparée.
C'est quoi les signaux qu'on sent quand on va perdre ?
Moi, les signaux, je les ai sentis quand j'ai vu quel était le corps électoral qui allait voter. C'est-à-dire les militants d'Europe Écologie Les Verts et puis des anciens qui avaient réadhéré. Et je crois qu'il y avait plusieurs facteurs, mais il y avait aussi que j'étais la dernière représentante, entre guillemets, d'une époque qu'on peut lire de façon positive ou négative, mais qui est celle de 2006-2012, où on part d'un parti dont Yves Cochet annonce et demande la dissolution, à un parti qui a deux groupes parlementaires et deux ministres au gouvernement, avec la gauche et les écologistes qui ont gagné, après une séquence électorale 2010, les régionales 2011, où la gauche et les écologistes gagnent tout, y compris le Sénat. Donc, beaucoup des gens de cette époque étaient partis, avaient quitté le parti, et j'étais la seule qui restait, donc je pouvais être aussi celle sur laquelle on faisait porter la responsabilité du départ et de la période 2014-2016.
Qu'est-ce qu'on apprend dans une défaite ?
On apprend à se relever. On apprend qui sont ses vrais amis. On apprend à pleurer aussi. Moi, j'ai accepté qu'il y ait des moments où ce soit dur. Parce que c'était une défaite annoncée, mais je dis que c'était la plus douloureuse parce que c'était mes propres amis qui me souffletaient très violemment, parce que j'ai pas seulement perdu, j'étais pas au second tour. C'était une humiliation, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, en même temps, quand je dis on apprend à se relever, c'est que ça a été libérateur. Peut-être que j'en avais besoin aussi. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'une dette à l'égard de ce collectif, et cette dette a été instantanément déliée.
Une des plus grandes défaites à gauche, c'est celle de Lionel Jospin, le 21 avril 2002. Est-ce que vous vous souvenez de où vous étiez et qu'est-ce que vous avez pensé de ce responsable politique qui, le soir même, dit « je me retire de la vie politique » ?
Je me souviens très bien parce que moi, j'avais fait la campagne de Noël ma mère, qui a fait plus de 5%. Donc, c'était un mélange extrêmement particulier du moment où on est très content, parce qu'on sent que ça va bien se passer, et de la stupéfaction, de l'espèce de saut glacé sur la tête de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Donc dans cette espèce de maelstrom de sentiments, la déclaration de Lionel Jospin, en fait, ça allait presque de soi. Enfin, c'était la catastrophe absolue, donc ça, en plus, c'était le pompon, quoi, voilà.
Mais c'est rare en France qu'un homme politique ou une femme politique qui perde s'en aille.
Non, mais le problème, c'était l'immédiateté, en fait. Il y avait quelque chose comme de la vexation qui transparaissait au-delà de la catastrophe. D'ailleurs, qui a continué de transparaître dans les mois et les années qui ont suivi, quand il a expliqué les raisons de cette défaite. Donc moi, ça a été une vraie leçon aussi politique. C'est compliqué parce que une défaite, c'est un mélange de plusieurs éléments, mais sur la personne en question, c'est aussi une blessure d'orgueil. Surtout de quelqu'un qui se préparait à être éventuellement président de la République. Là, c'est une espèce de trappe qui s'ouvre sous ses pas.
La défaite, on la vit comme un échec personnel ou c'est l'échec de vos idées ?
Bah, y a des moments où c'est personnel, il y a des moments où c'est vos idées. Moi, je considère comme une défaite mon départ du gouvernement en 2014, enfin notre départ avec Pascal Canfin. Et là, c'était une défaite de nos idées, c'était pas un problème personnel. Ma défaite aux élections législatives, c'est aussi une défaite plus collective, c'est une espèce de vague. Mais ma défaite à la primaire, non, elle est totalement personnelle. Donc, il n'y a pas, toutes les défaites ne se valent pas, comme toutes les victoires d'ailleurs, hein. Mais elles ont un effet différent. Mais c'est pas parce qu'on les voit venir qu'elles sont moins douloureuses. Parfois, des défaites surprises peuvent être différentes. Mais c'est vrai que quelque part, c'est plus dur quand c'est vos idées parce que ça semble plus durable. Quand c'est personnel, il y a un petit fond qui se dit bon bah c'est moi. Ouais, je me suis dit, peut-être, au moment où j'ai perdu pour la primaire, je me suis dit, bah ouais, peut-être qu'il fallait une nouvelle candidature. Moi aussi, j'ai été la nouveauté politique, donc peut-être qu'il faut quelqu'un d'autre, etc. Quand vous vous dites, bah non, ça va aller sur l'écologie, notamment lors du dernier quinquennat de Malampy, ça c'est... Pff. Surtout quand on s'est battu tellement d'années pour gagner. Moi, je savais que ça allait pas être un long chemin de rose, mais quand même qu'on aurait quelques petites victoires. On en a eu si peu.
Mais c'est intéressant parce que votre départ du gouvernement, c'est vous qui l'avez choisi.
Oui.
Et vous dites que c'est une défaite.
Ah ben bien sûr. C'est l'acceptation de l'échec. C'est-à-dire que le pari d'entrer au gouvernement, d'essayer de peser, d'imaginer que François Hollande fera un pas vers l'écologie parce qu'il n'aura pas le choix, parce que la réalité a rattrapé la vie de cette planète et parce que c'est nécessaire, bah c'est ça, oui, ça a pas marché.
Est-ce que la fin justifie les moyens en politique ?
Ça dépend quel moyen, et ça dépend quelle fin. Si la fin, c'est juste gagner une élection, la réponse est non. Si vous me disiez jusqu'où je serais prête à aller pour engager vraiment la sortie du nucléaire, moi, je méprise pas la tactique, par exemple. La question sous-entendue, c'est est-ce qu'on respecte les lois ? J'ai déjà pratiqué la désobéissance civique et je considère que, par exemple, ce que je considère comme une victoire, c'est-à-dire l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, ça a été possible parce qu'il y a eu plein de moyens utilisés, y compris des moyens qui ne sont pas des moyens stricto sensu légaux. Voilà. Donc c'est un débat très intéressant.
Romain Gary disait « Il est moins grave de perdre que de se perdre. »
Ah, je suis mais tellement d'accord. Mais je me la suis appliquée. Hein. J'ai perdu aux élections législatives et celle-là aussi, elle était assez prévisible de défaite. Mais j'ai dit, mais moi, je préfère perdre comme moi que gagner comme eux, en pensant à certains de mes anciens amis députés écologistes qui ont été réélus. Mais sans aucune hésitation. Mais je signais le papier.
C'est quoi se perdre pour vous ?
C'est se renier. C'est faire le contraire de ce que vous avez défendu pendant des années, en expliquant que tout ça est cohérent. Enfin, c'est... Moi, j'ai un espèce de guide assez, assez intéressant, c'est que j'ai des amis d'avant la politique, qui eux regardent ça avec distance. Dans leurs yeux, je sais que j'ai pas changé de conviction. Ça veut pas dire qu'il faut mépriser l'habileté, mais le reniement... Bah après, vous êtes tout seul avec votre conscience. Alors, on peut faire du bruit dans sa tête et agiter des honneurs pour l'oublier. Mais quand même, j'imagine que certains ont des petits moments un peu frais face à leur miroir.
C'est ça qui vous rattrape ? C'est les amis d'avant ? C'est la vie réelle ?
Je pense que je suis ballastée, comme on dit. C'est-à-dire que je sais pourquoi je suis là, je sais d'où je viens, je sais ce à quoi je crois. Donc je suis une femme de compromis, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait de la politique. Mais oui, il y a des principes, des valeurs que je ne toucherai pas. Point. Quel que soit le prix.
Quitte à perdre.
Quitte à perdre. Mais vous savez, au moment où je décide de partir, on me fait une dernière proposition en me disant « c'est ce que tu veux, dis ce que tu veux ». Et j'ai répondu « aucun prix, c'est aucun prix ». Point.
Est-ce que la victoire électorale, elle est toujours liée à une victoire idéologique ?
Oh bon, non. Il y a des victoires électorales qui sont des hasards bienheureux. Il y a des conjonctions, il y a des... Je ne dis pas ça pour moi, pour le coup, mais parce que j'en ai vu beaucoup des campagnes. Il y a des moments où c'est... Il y a des moments où vous êtes touché par la grâce, et puis il y a des moments, je ne sais pas, vos adversaires sont tellement divisés qu'ils gardent deux listes jusqu'au bout lors d'une élection municipale et que vous gagnez la ville un peu... Voilà, parce que par la division des autres, plutôt que par vos propres talents de conviction. Donc non, la politique, c'est loin d'être juste. Il y a du hasard, il y a de la chance, il y a plein de facteurs.
Justement, est-ce qu'une victoire électorale qui n'aurait pas été une victoire idéologique, elle est facile à tenir? Il y a un exemple historique connu qu'on est en train de célébrer, mais 68, ça se termine du point de vue de ceux qui ont fait le mouvement par la Chambre Bleu Horizon, donc par une énorme défaite électorale. Et pourtant, ça restera pour eux, et quand même plutôt pour la société française, comme une victoire.
Ah oui, c'est pour ça que l'élection en soi n'est pas le baromètre unique de la démocratie et des changements de société, pas du tout. Je pense d'ailleurs que ce qu'on est en train de vivre le montrera. Je pense qu'il y a une part de ce hasard et cette conjonction quand même dans l'élection d'Emmanuel Macron. C'est pas la victoire de sa ligne idéologique. Et d'ailleurs, quand il dit et qu'il répète « j'ai gagné en disant ce programme », oui, mais il y a plein de gens qui ont voté pour lui, pas parce qu'ils étaient d'accord avec ce qu'il disait. Et ça, faut jamais l'oublier quand on est élu. Ça, c'est mon autre phrase guide, c'est « n'oublie jamais qui t'a élu, pourquoi et pourquoi faire ». Et dans le pourquoi, il peut y avoir, par hasard, ou parce que ton adversaire était trop détesté, ou voilà. Faut jamais oublier ces éléments-là.
Et comment on fait quand on gagne une élection, mais que justement, il n'y avait pas eu de victoire idéologique, ou que c'est un peu allé hasard, ou que vous êtes là parce que celui qui était en face ou celle qui était en face était plus détesté?
Mais je vais vous donner un exemple très précis, un exemple auquel j'ai été confrontée. J'ai été élue députée du 11e et du 20e arrondissement. Et quand j'ai dû voter pour le premier vote de prolongation de l'état d'urgence, en fait, j'ai vraiment voté comme députée de cet arrondissement. Je connaissais la position officielle de mon parti, mais c'est vrai que j'ai été élue députée de cet arrondissement parce qu'il y avait un accord, parce que les gens ont choisi... à 70% le choix politique d'Europe Écologie Les Verts. Donc là, j'étais lucide et je me suis dit que... Alors, bien sûr que ça a fait débat et que tout le monde dans ma circonscription n'aurait pas fait la même chose que moi, mais à cet instant-là, je me suis dit quelle était la position des gens qui m'avaient élu dans leur grande diversité.
C'était quoi pour vous cette position?
J'ai voté et mon vote ne changeait rien. Le vote était acquis, donc c'était un vote en conscience. Je le regrette pas, même si je pense que j'aurais pu dire et savoir comme d'autres. J'ai eu un grand débat avec Pouria Mirchaï à l'époque. On a vraiment une discussion très forte en sortant de l'hémicycle, en parlant ensemble, que ça mettait une pièce dans un engrenage qu'on n'a jamais pu arrêter. Mais en conscience, au moment où ça s'est passé, 4 jours, 5 jours après les attentats, je pense que j'aurais pas fait différemment. Mais ça fait partie des votes sur lesquels je m'interroge. Toujours aujourd'hui.
En 2012, à la présidentielle, les écolos représentés, dont la candidate était Eva Joly, font un très 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 mauvais score. Et pourtant, quelques jours plus tard, François Hollande est élu, vous devenez ministre, il y aura un groupe écologiste à l'Assemblée, au Sénat. Donc en fait, d'une défaite, on peut faire une victoire.
Ah oui, d'ailleurs, certains ont dit que c'est à cause de cet accord qu'elle avait fait ce score-là. Et je le dis souvent en souriant, en 2007, on n'avait pas fait d'accord. Notre candidate, c'était Dominique Voynet, et elle a fait 1,57, c'est-à-dire beaucoup moins, un point de moins qu'Eva Joly. Moi, je crois que la victoire de François Hollande, c'est aussi la victoire d'une dynamique qui vient de plus loin. C'est un travail qu'on avait noué avec Martine Aubry depuis longtemps, c'est-à-dire de l'idée qu'on pouvait gagner dans notre diversité, mais rassemblée. Donc je ne lis pas cette défaite et cette victoire, je dis qu'il y a à regarder de toute façon plus globale, c'est une victoire préparée, entre guillemets. Et donc effectivement, elle n'est pas directement corrélée au résultat de l'élection présidentielle.
On dit souvent que les plus beaux discours, c'est les discours de la défaite. Souvent, les gens se souviennent du discours que tient par exemple Nicolas Sarkozy quand il perd à la primaire. C'est vrai pour vous?
Mais je pense qu'on est plus sensible, parce que... on regarde l'homme ou la femme en imaginant ce que c'est. Parce que quand vous perdez, c'est une chose, mais quand vous perdez en public, quand après votre défaite, vous sortez dans la rue et que tous les gens qui vous croisent vous tapent sur l'épaule en disant « ça va, c'est pas trop dur », c'est-à-dire qu'on vous rappelle votre défaite toutes les 5 minutes, un homme ou une femme politique qui perd, il sait ça. Il sait qu'il n'a pas seulement perdu, il est un perdant. Et du coup, peut-être qu'il se débarrasse d'un certain nombre d'oripeaux, d'orgueil habituel, et qu'il a une forme de vérité qui touche plus les gens qui l'écoutent. C'est possible, oui. C'est possible.
C'est ça qui est différent pour un homme ou une femme politique, c'est que sa défaite, elle sera médiatique et publique, parce que sinon, il y a plein de gens...
Exactement. C'est que c'est pas seulement vous avez perdu, vous êtes un perdant. C'est quelque chose de différent. Et on vous le rappelle souvent. Mais c'est aussi très bon pour... L'humilité, moi, c'est ce que on parle souvent des politiques, de l'ego des politiques, mais en fait, il est beaucoup plus malmené, beaucoup plus, finalement, beaucoup plus souvent confronté à des difficultés que les grands chefs d'entreprise, que des tas de gens. Je rapproche plus ça des sportifs, en fait. Faut accepter de perdre, faut accepter que parfois vous êtes le seul responsable ou la seule responsable de cette défaite, que c'est une défaite personnelle, je l'ai dit tout à l'heure. C'est particulier. Mais c'est ce qui fait aussi que quand on gagne pas seul d'ailleurs, on partage cette victoire-là et ça a une saveur différente.
On dit souvent que les politiques, ils ont une cour. J'imagine que c'est plus vrai quand vous gagnez. Quand vous perdez, il y a des gens qui s'en vont.
Moi, ce qui est le plus satisfaisant d'une certaine manière au moment, après avoir tourné la page de la politique, c'est que, à part de très très rares exceptions, les gens avec qui j'ai fait de la politique jusqu'au bout, j'avais presque commencé avec eux. Donc, des gens qui sont là dans la victoire comme dans la défaite, c'est un peu comme dans la richesse et dans la pauvreté. Voilà, c'est la même chose. Et ça forge des liens très, très puissants. Des liens d'amitié, mais presque au-delà de l'amitié, des liens de fraternité. Ouais, je crois que c'est ça le bon mot.
Parce qu'en fait, c'est votre dernier entretien en tant que femme politique.
Oui.
Vous abandonnez après 18 ans. Pourquoi vous avez fait ce choix-là?
J'ai tourné la page parce que j'ai envie d'une nouvelle aventure, parce que j'ai bien donné, parce que je crois qu'on peut faire de son engagement différentes choses. Et moi, j'ai envie de le faire au sein de la société civile, au sein d'une ONG internationale qui est formidable, qui s'appelle Oxfam et qui permet de montrer que le pouvoir, il est aujourd'hui dans la société à différents endroits. Et il est aussi... dans l'engagement citoyen.
Donc en fait, ceux qui vous ont fait perdre, ils vous ont fait du bien.
Ah ben, en fait, c'est vraiment, je l'ai dit avant les élections législatives, je disais, mais de toute façon, là, mon avenir politique, il est dans le bulletin de vote des électeurs. Je gagne, j'assume, bien sûr, pour le coup, je serai allée jusqu'au bout de mon mandat, mais si je perds, alors là, je suis libre. Deux défaites en 6 mois, la primaire, donc les écolos qui m'ont dit ciao, les législatives, voilà, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est libérateur si on l'accepte comme tel. J'avais toujours défendu le non-cumul, y compris le non-cumul dans le temps, et voilà. Et je suis vraiment très enthousiaste. En fait, j'ai 43 ans et j'ai la vie devant moi, mes enfants ont grandi, je vais pouvoir vivre et travailler avec des gens qui s'engagent pour faire reculer la pauvreté. C'est ce à quoi je crois plus que jamais, qu'il faut lutter contre les inégalités et lutter contre les crises écologiques. Voilà, c'est ça les deux enjeux de l'humanité. Et donc voilà, je suis pleine d'énergie, pleine de bonne humeur. Et j'ai pas de nostalgie, alors j'ai accepté de revenir avec vous pour regarder de façon apaisée. Mais j'ai presque un regard d'entomologiste sur l'ancienne Cécile Duflo.
Est-ce que la pire des défaites, c'est pas la défaite des idées, justement?
C'est la plus triste. C'est la plus triste. Moi, j'ai vécu quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire c'est l'avènement de mes idées. Quand, il y a 18 ans, on défendait certains sujets, de dire que le dérèglement climatique était un problème, la perte de biodiversité, les dangers de la pollution, il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de vous, enfin vraiment, ou qui vous contre-attaquaient. Aujourd'hui, plus personne dans les mots ne dit que vous avez tort. C'est-à-dire que les alertes des écologistes se sont avérées, c'est triste. Mais voilà, alors maintenant, on en est au débat entre... le dire dans les mots et passer aux actes. Donc on n'a pas encore le passage à l'acte. Mais au moins, l'avènement de la nécessité de l'écologie, je l'aurais vécu tristement, parce que c'est par l'aggravation des crises, mais vivante.
Mais elle ne s'est pas traduite par une victoire électorale?
Pas encore, mais peut-être qu'avec les nouveaux, ça va marcher. Je leur souhaite bonne chance.
Régis Debray disait « Macron ne peut pas être un bon président parce qu'il n'a jamais connu de défaite.
Ben, » il y a une chose qui m'a marquée, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, où il est dans une école et des enfants lui attrapent le bras et lui disent qu'il a des gros poils en tirant sur les poils qui dépassent de sa chemise. Et ça se voit sur son visage qu'il est atrocement vexé. Et je me suis dit, franchement, être vexée par des mômes de 4 ans, c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai que on peut dire sur les hommes et les femmes politiques qu'ils ont la grosse tête, mais quand même, sauf exception, on apprend très très souvent l'humilité, notamment par la défaite. Oui, lui, c'est une course sans fin, mais on verra, enfin, la vie est longue, hein. Pour Emmanuel Macron aussi.
Mais vous pensez vraiment que pour un homme ou une femme politique, c'est important, parce que c'est un mythe très français qu'il faut perdre, se relever, recommencer.
C'est pas perdre. Très français, pour le coup, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus anglo-saxon, où on pardonne beaucoup moins la défaite en France. Hein. Vous pouvez facilement passer par pertes et profits. C'est quelque chose, y compris dans le monde de l'entreprise. Elle est plus stigmatisante, la défaite, en France, qu'elle ne l'est dans d'autres pays.
Chirac, François Mitterrand, ils y arrivent après avoir perdu, et on en fait une espèce d'épopée. C'est-à-dire qu'ils ne s'en vont pas à la première défaite, y compris à une défaite présidentielle.
Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est pas seulement la défaite, c'est juste l'obstination. Enfin, c'est vrai que la défaite en soi n'existe pas. Il y a des différentes défaites. Il y a des défaites qui signent une fin de non-recevoir, et il y en a d'autres qui sont des encouragements. Enfin, perdre à 49-51, c'est pas la même chose que perdre à 20-80, par exemple, une élection. Toutes les défaites ne se ressemblent pas.
Est-ce que les victoires, ça s'oublie plus vite qu'une défaite?
Non, je crois pas. C'est pareil, il y a des victoires qui sont des victoires qui vous surprennent, il y a des victoires qui vous font du bien, il y a des victoires hyper annoncées, puis il y a des victoires qui vous ennuient presque.
Il y a des victoires qui vous ennuyaient?
Mon dernier mandat de secrétaire national, c'était pas le plus facile. J'étais très usée à la fin. D'ailleurs, j'ai fait des bêtises parce que j'en avais marre. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Je savais qu'il fallait faire tenir la boutique. C'était après la fusion avec Europe Écologie. C'était compliqué. Il y a des moments où faut faire son devoir.
Le regard des autres, c'est un moteur en politique.
Le regard des autres a été mon moteur en politique. C'est-à-dire que je me suis battue beaucoup pour les gens qui étaient près de moi. J'ai cherché longtemps où était ma propre motivation, où elle est ma flamme intérieure. J'ai compris que j'en avais pas. Mais qu'en revanche, les gens qui m'ont portée, qui m'ont accompagnée, voir leurs yeux pétiller quand je descends de la tribune et que j'ai été bonne, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui m'a portée. Et je pense que j'aurais du coup exactement la même chose avec les militants, avec les bénévoles, avec tous ceux qui font vivre l'ONG dans laquelle je suis aujourd'hui.
Être une femme, c'est plus dur?
Beaucoup.
Dans la vie politique?
Beaucoup plus. Voilà, ça c'est une chose. Mais c'est pas pour ça qu'il faut, un, pas que ça change, deux, pas que les femmes s'engagent. Oui, bien sûr. J'ai dit souvent, donnez-moi le nom d'une femme puissante qui n'a pas été accablée de reproches. Il n'y en a pas. C'est simple. Et quand vous faites la même chose qu'un homme, dans un cas, c'est un caprice, voire la réaction d'une amoureuse déçue, moi, quand je pars du gouvernement. Et dans un autre cas, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, quand ils partent, c'est un acte politique fort qui est posé. Et ça, je pourrais multiplier les exemples. Donc ça, oui, c'est pénible. C'est pénible.
Et vous avez fait comment pour tenir pendant 18 ans?
J'ai chanté souvent la chanson de Balou.
Vous pouvez vous y mettre, hein, si vous voulez.
Je vais vous chanter un petit bout de la chanson de Balou qui est très importante et qui a tout à voir avec la question, il faut que je m'en souvienne bien. Si vous mangez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Voilà.
Et ça vous a fait tenir?
Oui, oui, de pas prendre au sérieux. Alors, de temps en temps, du coup, ça m'a valu d'autres critiques sur le côté peut-être infantile, pas sérieux, etc., etc. Mais je pense qu'on peut faire les choses très, très sérieusement sans se prendre au sérieux. Et le piège de la politique, c'est que quand on vous truffe de titres, de rondes jambes, vous pouvez vite vous croire arrivé. Et moi, jamais. J'ai joué à cache-cache au ministère. Quand il y avait des rendez-vous que je voulais pas, je me cachais entre deux portes derrière les rideaux. Voilà, je crois qu'après, je suis née le 1er avril. C'est un vaccin contre la grosse tête. Mais oui, il y a des fois, ça a été vraiment très, très, très difficile.
Est-ce qu'on entraîne sa famille dans une défaite? Est-ce que c'est dur pour vos proches, pour vos enfants, pour les gens autour?
Franchement, si je me retourne sur ces 18 années, la chose dont je suis la plus fière personnellement, politiquement on pourrait débattre, mais personnellement, c'est que mes enfants vont bien. Et au moment où je vous le dis, c'est vraiment une réflexion de femme. Parce que moi, j'ai tout le temps dit, la truc qui me ferait arrêter, c'est si un de mes enfants allait pas bien. Donc je les ai tenus à distance et en même temps, on a beaucoup partagé. Et je me souviens très bien, on est parti en vacances après ma défaite aux élections à la primaire. J'avais dit peut-être que je pourrais pas venir ou tout ça parce que ce sera l'entre-deux-tours. Et là, je suis venue toute la semaine de vacances avec eux. Et ma fille, Bluette, m'a dit une chose très jolie. Elle m'a dit « Non mais ça va maman ?» Je dis « Oui, c'est bon, ça va. » Elle me dit « Parce que tu sais, nous on s'en fout complètement que t'es perdu même, on est content parce que du coup t'es là. » Et en fait, ça a vraiment, vraiment dédramatisé beaucoup de choses. Voilà, non, oui, on peut être un peu irritable, un peu... Mais moi, depuis très longtemps, je me suis quand même beaucoup disciplinée pour que mes vicissitudes politiques n'aient pas d'impact sur... et le moins possible d'impact sur ma vie privée, sinon c'est un enfer général. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont vraiment pas choisi.
Et vous les avez préservés.
C'est à eux qu'il faudrait demander de dire ça. J'ai le sentiment que oui. C'est-à-dire que j'ai rien sacrifié pour eux, donc je ne leur fais aucun reproche. Et à l'inverse, j'ai essayé... Ils étaient quand même toujours au centre de ma vie. Enfin, voilà, c'est d'ailleurs, je pense, peut-être la chose qui s'est le moins vue de toute cette carrière politique, c'est que, au fond de moi, à chaque instant, j'étais une maman. J'étais profondément une maman. Donc, l'essentiel de ma vie n'était pas dans ce qui pouvait arriver à Cécile Duflo. Voilà. Le redoutable animal politique.
Est-ce qu'il y a des gens que vous admirez et qui ont perdu?
Est-ce qu'il y a des gens que j'admire et qui ont perdu? Oui. Oui. Une personne qui a perdu une primaire, comme moi, c'est Martine Aubry. Moi, je me souviens très très bien du soir du second tour, où elle va, elle prend la main de François Hollande, elle lève, elle sourit, elle dit « c'est notre candidat ». Faut sacrément des nerfs pour faire ça. Faut sacrément des nerfs. Ce soir-là, je l'ai regardé, je me suis dit « chapeau bas ». Chapeau bas. C'est ultra dur. Parce que c'est simultané. Il faut encaisser sa défaite et promouvoir celui qui est ultra joyeux, qui vient de gagner.
Elle devait penser à son camp plus qu'à elle-même.
Oui, c'est elle devait penser à son camp plus qu'à elle-même, mais même une fois qu'on a dit ça, c'est joli théoriquement, faut des nerfs. Faut des nerfs. Voilà. Ce soir-là, j'étais admirative, vraiment. Je me souviens très bien, j'ai l'image, je crois que je vois encore les vêtements qu'elle portait. J'ai regardé son visage, je me suis dit, elle est forte, elle est forte.
Et vous, quand vous repensez à votre carrière, à vos 18 années passées dans la politique, et ça sera la dernière question, vous vous dites, vous avez été forte?
Je me dis, si ça a été possible pour une fille comme moi, c'est que c'est possible pour d'autres. Bon vent.
Merci et bon vent à vous aussi.
Vous retrouverez demain la suite de « Jour de défaite, perdre en politique » en partenariat avec France 3. À voix nue, réalisation Anne Pérez Franchini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.